Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les démocraties africaines.
Oui, vous l'avez entendu, nouvelles promesses et nouveaux espoirs, hésitation dans la transition démocratique au Soudan après 20 années d'autoritarisme, trajectoire presque inverse, mais hésitation aussi au Bénin, autrefois démocratie modèle, marquée encore hier par des violences post-électorales. Ceci alors qu'aujourd'hui, au Nigeria, c'est le Democracy Day, le jour même de l'investiture du président Buhari réélu. Alors, est-ce la fin, le retour des autoritarisme, les démocraties africaines en tout cas semblent bien à l'ère des divergences, tour et détour, c'est ce que vous écrivez dans ce dossier de politique étrangère consacré aux démocraties africaines. Thierry Vircoulon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI et co-directeur de ce dossier consacré à l'Afrique. Donc, dans le numéro de politique étrangère de l'été 2019, vous y avez écrit deux articles. Qu'on commence avec le Nigeria, puisque c'est aujourd'hui l'investiture de Buhari, réélu pour un second mandat, 20 ans après la fin de la dictature militaire. Simplement, le fait qu'il ait lui-même choisi de déplacer légèrement la date de ce Democracy Day, c'est significatif quand même de la tournure ou de la légitimité qu'il veut donner à son second mandat ?
Oui, peut-être. La signification n'est pas tout à fait évidente, mais il est clair que ce second mandat n'est pas tout à fait une bonne nouvelle pour le Nigeria, puisque le premier mandat n'a pas été très performant. Et ça reflète l'état d'un certain nombre de régimes qui ne sont pas en mesure en Afrique de trouver les solutions aux problèmes de la population.
Alors avec un cas peut-être particulier ou pas pour le Nigeria, puisque un article y est consacré dans la revue, c'est ce que Marc-Antoine Pérouse de Monclos appelle « Demo Crazy », puisque c'est un mélange, on pourrait dire, d'institutions stables, mais, dit-il, incapable de créer de la cohésion nationale. C'est le même jugement que vous portez ?
Oui, il y a un processus de fragmentation du Nigeria, de fragmentation interne du Nigeria, et surtout, ce sont des régimes qui ont été incapables d'apporter des solutions aux problèmes socio-économiques de la population, et ça, c'est assez commun en Afrique.
Et alors, est-ce qu'il faudrait parler de démocratie à minima ou forcément dysfonctionnelle ? Marc-Antoine Pérouse de Monclos note encore que les Nigérians parlent de régime civil, pas de démocratie. Vous dites finalement, il y a qu'un seul état pétrolier qui peut être considéré comme réellement démocratique en Afrique, c'est le Ghana. Est-ce que c'est vraiment ça ?
Oui, c'est la question des états rentiers a été... et montre que ce sont des États qui sont rarement démocratiques. Et en fait, la découverte du pétrole au Ghana est récente. Et donc, on verra dans l'avenir quels seront l'impact de cette découverte sur le régime politique du pays.
Mmh. Et alors, autre actualité, je le disais, c'est le Soudan là qui hésite un peu dans cette transition démocratique, un pays qui sort de 20 ans de pouvoir de parti quasi unique. Comment est-ce que vous estimez son évolution ? Est-ce que c'est une transition démocratique qu'on pourrait dire sans lendemain, ou il y a réellement une inflexion et, disons, une capacité du conseil militaire et des militaires à aller dans ce sens des discussions avec les civils ?
Non, le conseil militaire a approuvé avec les dernières violences qu'il n'était pas prêt à aller dans ce sens-là. Au Soudan comme en Algérie, on voit bien que la révolte de la société civile se heurte au pouvoir militaire et que dans ces deux pays, on a des pouvoirs militaires qui sont tout à fait anachroniques. Donc on va voir si ils arrivent à se maintenir et à contrer la demande démocratique de la société civile. Je pense que ça va être les semaines qui viennent vont être majeures au Soudan. Quand on regarde le Soudan et l'Algérie, on voit bien qu'on a affaire à des régimes qui ont été congelés pendant très longtemps et qui sont du fait de l'importance de l'armée, des régimes extrêmement anachroniques par rapport aux autres régimes politiques en Afrique.
Et alors justement, quand vous dites anachronique, c'est ce que vous notez dans un des articles, disons que le refus et l'échec des juntes militaires, est-ce que c'est pas le premier signe ces 15 dernières années, disons, d'un approfondissement démocratique en Afrique? Quand je dis rejet, c'est Guinée-Conakry par exemple, ou même Mali?
Non, c'est pas le signe d'un approfondissement de la démocratie, c'est le signe du fait que le régime militaire sont passés de mode. Mais il faut pas confondre ça avec un approfondissement de la démocratie. En fait, on observe que il y a en Afrique des démocraties véritables qui sont assez minoritaires. Il y a une majorité de démocraties de façade. Et malheureusement, quand on regarde les démocraties véritables, on s'aperçoit que beaucoup d'entre elles ne sont pas performantes. C'est-à-dire, comme je le disais pour Nigeria, n'arrivent pas à résoudre les problèmes socio-économiques du pays et pour certains sécuritaires. Le Burkina Faso est une véritable démocratie et on voit que le régime n'est pas en mesure de gérer les problèmes socio-économiques et maintenant sécuritaires très sérieux qui se posent à ce pays. Et donc il y a un risque de désenchantement démocratique à terme.
Oui, le Burkina Faso qui avait été considéré comme un pays modèle et à l'époque de ce qu'on avait appelé un printemps africain, qui avait subi une tentative de coup d'État. Qu'on reste encore une fois, juste un mot sur l'armée. Quand même, le fait que par exemple au Zimbabwe en 2017, l'armée n'ait pas destitué justement le président Robert Mugabe, mais l'ait en quelque sorte poussé à partir, c'est quand vous dites l'armée est passée de mode, en fait, est-ce que c'est pas juste que ce type de régime n'a plus aucune légitimité aujourd'hui et plus aucun avenir en Afrique?
Disons que les juntes militaires sont en effet passées de mode, mais ça ne veut pas dire que l'armée n'est pas un acteur du pouvoir très important. Et au Zimbabwe, c'est le cas. L'armée qui a poussé Robert Mugabe dehors, ça c'est clair, et c'est elle qui reste encore très largement aux commandes au Zimbabwe. Donc là, on est en effet, les juntes militaires ne sont plus acceptables, mais ça n'empêche pas les stratégies de dissimulation du pouvoir militaire. Et quand on voit des crises comme au Soudan ou au Zimbabwe, on voit très vite l'armée sortir et jouer un rôle politique majeur. Et actuellement, que ce soit en Algérie ou au Soudan, c'est l'armée qui détient la clé de l'avenir de ces pays.
Et précisément, un cas ou une zone où il y a ambiguïté sur l'armée, ou plutôt les groupes armés, là vous avez consacré aussi un article, c'est la RCA, République Centrafricaine, où il y a la tentative d'une sorte de démocratie, on pourrait dire, post-conflit. Mais vous, après avoir longtemps étudié la question, vous n'y croyez pas du tout, hein. Vous parlez d'échec après 5 ou 6 accords quand même, des accords qui sont sans cesse dénoncés. Quel avenir à ces négociations avec des groupes armés et un gouvernement installé démocratiquement?
C'est un gouvernement installé électoralement, mais le problème fondamental de la RCA et de la RDC et d'autres pays post-conflit, c'est que en fait il n'y a pas de changement de gouvernance avant et après le conflit. La gouvernance prédatrice qui existait avant le conflit existe après le conflit. Et c'est pour ça que ces pays sont dans un cycle en fait de conflits très souvent et qu'on voit tous les 10 ans reparaître les mêmes instabilités.
Et alors, justement là vous avez dit gouvernance prédatrice sans aller jusque aux actions armées. Est-ce que c'est pas ça qui caractérise une grande partie des régimes d'Afrique subsaharienne, même si démocratie nominale on pourrait dire, mais c'est ce que vous appelez la domination des régimes hybrides avec une prédation ou bien familiale ou bien par homme fort, c'est un peu ça?
Oui, c'est en effet cette situation. On se rend compte que dans beaucoup de pays africains, la classe politique a un comportement tout à fait prédateur et a fini par retirer la substance de l'État et n'en faire plus que une entreprise de taxation et non plus une entreprise de fourniture de services à la population. Et du coup, on se retrouve avec un retournement en quelque sorte de l'État où il n'y a plus que le côté négatif de l'État et il n'y a plus son côté positif.
Oui, avec peut-être pour nos auditeurs un exemple dans l'actualité récente, le discours d'Ali Bongo le week-end dernier, qui annonce un remaniement ministériel alors que c'est sa légitimité et sa capacité à rester à la tête de l'État qui est remise en cause. Autre exemple intéressant, un article qui est consacré dans la revue, c'est l'exemple mauritanien aussi, enfin vous l'appelez comme tel, avec une présidentielle le 22 juin et une première passation de pouvoir démocratique ou une deuxième en vue en fait.
Oui, oui, oui. Alors la Mauritanie est un exemple très intéressant parce qu'il montre que après la démocratisation qui a eu lieu dans les années 90, il s'est formé un groupe politico-économico-politique qui est hégémonique et qui réussit à se maintenir au pouvoir à travers les élections. Et donc là aussi, c'est une sorte de déviance de la démocratie puisque ce groupe bloque en fait toute alternance et réussit à se renouveler parce qu'il détient tous les leviers économiques et politiques du pouvoir.
Et quand bien même, justement, vous invitez dans ce numéro à sortir de ce que vous appelez l'obsession électorale pour étudier le fonctionnement de ces démocraties africaines. Et est-ce que là, dans quand même la configuration électorale, on n'a pas une bonne offre politique quand même? 6 candidats, il y a un candidat d'alliance d'opposition large, même un candidat anti-esclavagiste qui était arrivé deuxième. Est-ce que c'est pas un signe positif, ça?
Bah, on verra quel est le résultat des élections, mais il est clair que très souvent, les oppositions ne sont pas capables de s'unir, et c'est pour ça qu'elles sont défaites, une des raisons pour lesquelles elles sont défaites très, très fréquemment.
Bon, bah, écoutez, ce sera à suivre, on renverra ce numéro de Politique étrangère, la démocratie en Afrique, tour et détour. Merci beaucoup pour aujourd'hui, Thierry Vircoulon. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.